Bonjour, c'est une information RSR. Après l'étrange suppression du poste de directeur des finances et des ressources humaines de l'université de Neuchâtel, on apprend aujourd'hui que la direction centrale du service de formation continue a également été biffée au début de l'été, officiellement pour des raisons budgétaires. Mais la vérité est peut-être ailleurs, nous dira Virginie Pilot dans un instant. Toujours au menu de ce journal, l'optimisme de Moritz Leuenberger au sommet de la biodiversité de Nagoya sur la signature d'un accord entre les participants. Nous parlerons aussi de la pression toujours plus grande exercée par les banques sur leurs gestionnaires de fortune. Et puis la carte postale chinoise d'Alain Arnaud nous amènera à la rencontre du personnel du pavillon suisse de l'Expo universelle de Shanghai. Détecter et prendre en charge les victimes de trafic d'êtres humains, c'est l'objectif d'une formation pilote de 4 jours qui s'achève aujourd'hui à Lausanne. Une démarche initiée par le FEDPOL, l'Office fédéral de la police. Nous ferons le bilan de cette opération et le point sur la traite des êtres humains en Suisse à la fin de ce journal avec Laurent Knobel, l'un des responsables de cette formation. Soleil et douceur cet après-midi sur nos régions. Le mercure affichera 13 à 17 degrés sur le plateau, jusqu'à 19 en vallée, mais ça se gâte demain. Des nuages et des averses gagneront l'ensemble de la Suisse en fin de journée et le fun soufflera en rafale dans les vallées alpines. La journée de dimanche s'annonce Mossad avec Aversé par ses fraîcheurs, nous dira Sébastien Dupéret. Et on prend des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Lausanne-Yverdon, un camion remorque a endommagé la signalisation et le trafic est perturbé à la hauteur de la Sarra en direction d'Yverdon. Et l'on reparle donc de l'université de Neuchâtel, dont la direction centrale du service de formation continue a été supprimée au début de l'été par le rectorat, au même titre que la direction financière pour motif économique. Voilà donc pour l'explication officielle. Officieusement, on parle de graves dysfonctionnements et d'une connaissance de la rectrice de l'université de Neuchâtel placée à la tête de ce service en 2008, Virginie Pilot.
Oui, elle est biologiste comme Martine Raillet, mais elle nous assure qu'elle n'a aucun rapport personnel avec la rectrice, si l'on accepte le fait qu'elle lui ait racheté sa maison en 2005. Elle l'a côtoyée au sein du pôle national de recherche, où elle était notamment chargée des transferts technologiques, alors que Martine Raillet était directrice. Mais les subventions fédérales diminuent, certains postes ne peuvent plus être reconduits, plusieurs personnes seraient donc recasés au sein de l'université. Certains estiment que ces nouveaux venus, qui font partie de l'équipe Raillet, n'ont pas forcément le profil idéal pour les emplois qu'ils vont occuper.
La biologiste responsable des transferts technologiques va ainsi devenir responsable de la formation continue.
Son service s'appelle la FOCO, elle y est déléguée pour le rectorat. De l'avis de l'ancien recteur ad intérim Jean-Pierre Derendinger, en poste jusqu'en 2008 justement, cet office fonctionne alors correctement, mais il a besoin d'être réorganisé pour correspondre aux critères européens de Bologne. La nouvelle responsable reçoit pour mandat de mettre en place de nouvelles formations et de parvenir à l'autofinancement dans un délai de 2 ans. Mais les choses vont de mal en pis, l'équipe reproche à la nouvelle déléguée de s'absenter sur de longues durées à des moments stratégiques, de se montrer autoritaire parfois contradictoire et de faire embaucher une secrétaire qui serait l'une de ses amies et dont les compétences en informatique et en anglais ne seraient pas à la hauteur. Les rapports de travail se tendent. L'intéressée elle-même qualifie l'ambiance d'exécrable. L'équipe a littéralement explosé en vol, dit-elle. J'ai fait appel à mon supérieur hiérarchique, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Une employée du service dénonce ses dysfonctionnements, elle aussi, et se plaint même de harcèlement. Elle finit par quitter son poste en burn-out.
Et ces problèmes ne sont pas remontés jusqu'au rectorat ?
Si, les autres membres de l'équipe tentent eux aussi, plusieurs fois d'ailleurs, de tirer la sonnette d'alarme, mais en vain. Toute l'affaire se termine étrangement. Le 20 mai dernier, une lettre recommandée signée de la rectrice informe les collaborateurs de la FOCO qu'ils sont licenciés et que le service est supprimé pour des raisons budgétaires.
Et c'est un procédé qui nous rappelle forcément une autre affaire.
Eh ben oui, une autre suppression de poste, hein, celle du directeur des finances et des ressources humaines de l'université, a fait des vagues depuis qu'elle a été annoncée officiellement par le Conseil d'État le 28 septembre dernier. Là aussi, des raisons d'économie ont été invoquées. Là aussi, certains éléments portent à soupçonner d'autres motivations. Le cabinet d'audit qui a été chargé de l'analyse externe de l'université après le licenciement du directeur financier devra donc se pencher aussi sur ce nouveau cas. Son rapport est attendu pour la mi-novembre.
Virginie Pilot en direct de nos studios de Neuchâtel. Qu'on se le dise, le clivage gauche-droite traditionnel est dépassé pour analyser l'électorat suisse. Selon les études Select présentées aujourd'hui à Berne, c'est l'identité et la culture qui ont formé l'échelle prédominante lors des élections fédérales de 2007. Les politologues parlent d'un nouveau Kulturkampf pour évoquer ce glissement, Pascal Jeannerat.
plus ou moins de justice sociale, plus ou moins d'État ou de redistribution des richesses, plus ou moins de libre marché, eh bien ce clivage gauche-droite traditionnel auquel vous faisiez référence, ce n'est plus le plus important au sens de l'électorat, selon les politologues des études de Selex qui se sont penchés de près sur les élections fédérales de 2007. La tendance dépasse ce scrutin. Aujourd'hui, ce qui détermine le choix électoral, c'est une autre échelle, une échelle identitaire, culturelle, entre d'une part les traditionalistes, les isolationnistes et ceux qui sont plus favorables à une ouverture sociale et politique du pays. Une dimension donc culturelle qui supplante les conflits socio-économiques traditionnels et qui permet donc, selon les politologues, de parler d'un nouveau Kulturkampf. Ce qui explique aussi la progression de l'UDC et des Verts lors des fédérales de 2007, estime-t-il. Résultat à l'appui, on en conclut évidemment qu'il sera déterminant pour les partis de savoir se positionner à leur avantage sur cet axe-là, l'axe ouverture-fermeture de la Suisse en quelque sorte. Les études reviennent aussi sur la question du potentiel électoral. Ce sera un élément crucial pour les élections à venir. L'UDC avait fait pratiquement le plein de son potentiel en 2007. Qu'en sera-t-il l'an prochain? Comment vont devoir agir les autres partis pour transformer la sympathie des électeurs en suffrage sonnant et trébuchant? Point intéressant pour conclure sur cet aspect. Ce seraient les Verts qui bénéficieraient aujourd'hui du plus large potentiel électoral en Suisse. C'est ce que révèle notamment l'une de ses études Selects.
Pascal Jeannerat, en direct de nos studios du Palais fédéral. À vos côtés, Pascal Schiarini, bonjour.
Bonjour.
Politologue à l'Université de Genève, vous êtes l'un des auteurs de ces études présentées aujourd'hui à Berne. Cette importance du critère identitaire, comment elle se mesure concrètement dans vos études ?
Alors, dans nos études, on pose un certain nombre de questions aux personnes qui sont interrogées. On leur demande d'évaluer quelle est la Suisse qu'elles souhaiteraient. Ce sont à chaque fois des échelles entre 1 et 6. On leur demande par exemple, est-ce que vous voulez une Suisse sans armée, une Suisse avec une armée forte? Est-ce que vous voulez une Suisse qui adhère à l'Union européenne ou une Suisse qui fait cavalier seul? On a une douzaine de questions comme cela, à partir desquelles on peut construire ces dimensions qui ont été évoquées précédemment.
Vous dites que c'est surtout l'Union démocratique du centre et les Verts qui ont profité électoralement de cette tendance, surtout l'UDC, non ?
Surtout l'UDC, c'est vrai, vous faites bien de le dire. On a une progression asymétrique. L'UDC profite plus que la gauche de ce nouveau clivage. L'UDC, depuis maintenant une quinzaine d'années, est vraiment le parti qui s'est positionné sur le pôle de défense des traditions, du conservatisme, du repli identitaire. Et c'est clairement en raison des positions de l'UDC sur cette dimension que l'UDC a connu une telle progression.
Et comment le centre droit peut réagir dans ce contexte ? Il est forcément moins porteur de ces valeurs culturelle, ouverture, fermeture.
C'est clair, c'est difficile pour les partis du centre, dans un climat qui est très polarisé, gauche-droite mais nouvelle mouture, c'est-à-dire gauche-droite identitaire, c'est très difficile pour les partis du centre-droit de trouver le créneau. Ils sont eux modérés sur cette dimension ouverture-fermeture et donc ils ont de la peine à attirer les électeurs, sauf les électeurs qui sont eux-mêmes un peu divisés sur la question.
Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient moins modérés, plus tranchés?
Alors, soit ils doivent radicaliser leur position sur ces thèmes-là, soit ils doivent parvenir à imposer d'autres thèmes sur lesquels ils ont plus de facilité, sur lesquels on les identifie davantage comme étant les partis en mesure de régler les problèmes.
Quels enseignements on peut tirer de ces études en vue des élections fédérales de l'an prochain ?
D'une part, je crois que contrairement à ce que laissait présager le sondage SSRI des Suisses paru la semaine passée, je ne crois pas personnellement à un renforcement du centre, je ne crois pas à une fin de la polarisation. Je me rappelle qu'il y a 4 ans, on avait eu un même type de sondage avec les mêmes résultats, 1 an avant le vote. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Au fil de la campagne, les positions se précisent, les positions se radicalisent, l'UDC impose ses thèmes de campagne, les réfugiés, les étrangers, et au final, on a une élection qui est très polarisée, dont profite l'épaule.
Merci beaucoup en tout cas de ces explications, Pascal Schiarini. Je rappelle que vous êtes politologue à l'Université de Genève. Vous êtes l'un des auteurs de ces études Select présentées aujourd'hui à Berne. Vous répondiez à l'invitation de Pascal Jeannerat. Merci, bon après-midi à vous.
Merci à vous aussi.
La Suisse, emmenée par le conseiller fédéral Moritz Leuenberger, est optimiste sur la signature d'un accord au sommet de la biodiversité de Nagoya au Japon sur le partage des bénéfices issus de l'exploitation des ressources animales et végétales de la planète. La conférence regroupe 190 pays liés par la Convention des Nations Unies sur la biodiversité biologique. George Baumgartner.
Nagoya cherche à sauvegarder la diversité des ressources végétales et animales. La négociation reste très ardue. Alors, Moritz Leuenberger s'attend-il à Nagoya à un échec comme à Copenhague pour le climat ou à un succès ?
avec un progrès, parce qu'on a quand même appris du désastre de Copenhague. Là, les espoirs étaient trop grands et on voulait régler presque tout le monde, n'est-ce pas, tous les problèmes du monde. Et aujourd'hui, on se concentre sur les problèmes réels. Et j'ai bon espoir qu'il y a, je dis un succès, mais en tout cas c'est un progrès, ça ne serait pas terminé après cette conférence, mais on ne peut pas le terminer tant quelques semaines.
Nagoya cherche à mettre en place un cadre juridique pour partager équitablement les bénéfices tirés de l'exploitation des ressources génétiques dans les pays en développement. Directeur de l'Office fédéral de l'environnement, Bruno Eberle, donne cet exemple.
Dans le cas d'une épidémie, par exemple, une grippe exceptionnelle. Pour pouvoir développer des médicaments, il faut avoir les pathogènes, il faut avoir le code génétique des virus qui produisent cette grippe. Une des questions qu'on est en train de discuter, c'est à quelles conditions on peut les obtenir? Est-ce qu'on peut les obtenir très rapidement? Est-ce qu'on peut les obtenir sans payer tout de suite? Qu'est-ce qu'on donne comme compensation? Est-ce que c'est possible, par exemple, de donner rapidement, de mettre à disposition des médicaments à des prix plus accessibles aussi pour les pays en voie de développement? Ça, c'est une question typique où on doit tarer précisément qu'est-ce qu'on, nous, on obtient et qu'est-ce que les donneurs de ces ressources génétiques obtiennent.
La Suisse se veut optimiste à Nagoya. Il y a une grande attente pour arrêter la perte de la biodiversité, de la peur aussi, celle d'un échec. Georges Angartner, Radio Suisse Romande, Nagoya.
Tirer les leçons de la crise grecque qui a failli emporter la zone euro. C'était l'objectif hier de la première journée du Conseil européen. Alain Franco, vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Mission accomplie.
Fini le laxisme des premières années qui a abouti à la catastrophe grecque. Promis juré, désormais, les Européens seront plus sévères contre ceux d'entre eux qui ne respectent pas les règles d'or de la discipline budgétaire. Un déficit public inférieur à 3% et une dette au-dessus de 60% des revenus nationaux. Contrairement à ce qui se faisait jusqu'alors, les États se surveilleront les uns les autres. Les projets de budget seront passés à la loupe et mieux coordonnés. Les pays qui sortiront des clous auront 6 mois pour prendre des mesures, sinon des sanctions seront appliquées. Pas de façon totalement automatique, comme le réclamait l'Allemagne, soucieuse d'instaurer une discipline de fer. Plusieurs pays, dont la France, veulent conserver un contrôle politique sur ce processus. Angela Merkel insiste également pour que l'arsenal des sanctions inclue la privation des droits de vote de l'État récalcitrant au sein du Conseil des ministres, un pont trop loin pour nombre de ses partenaires. On en reparlera vers la fin de l'année, façon sans doute d'enterrer le projet. Les Européens se sont aussi mis d'accord pour rendre permanent le fonds de solidarité, créé dans l'urgence pour sauver la Grèce. Mais pour cela, il faut réformer le traité de Lisbonne. On décidera comment s'y prendre en décembre prochain. Alain Franco, Radio Suisse Romande, Bruxelles.
Retour en Suisse avec cette pression exercée sur les gestionnaires de fortune de l'UBS pour engendrer toujours plus de chiffres d'affaires, dont nous vous parlions déjà dans le journal du matin sur la première, une situation qui ne se limite pas à cet établissement, Dominique Chauffat.
Les grandes banques sont en première ligne, tout simplement parce qu'elles ont perdu des fonds pendant la crise et elles doivent se battre pour retrouver leur poids. Mais les autres établissements bancaires sont aussi dans cette course aux revenus. C'est l'avis de Denise Chervet, la secrétaire centrale de l'ASEB, l'association suisse des employés de banque.
Il y a une remise en question dans le monde de la finance. Il y a aussi un besoin de se repositionner. Il y a une concurrence importante. Il y a une incertitude par rapport à l'avenir. Donc tout ça, ça n'aide pas à vivre des jours calmes et paisibles, quoi.
Cette pression sur les employés est d'autant plus difficile à vivre qu'elle est interne aux banques via la hiérarchie et tous les niveaux, mais elle est aussi externe avec un regard plus sévère des clients, de la population suisse à l'égard des banques. Alors cette pression, elle ne va pas sans doute disparaître dans un prochain délai et on doit apprendre à la gérer.
Si des associations professionnelles existent, c'est parce que nous sommes convaincus que les employés ont besoin d'avoir un endroit où ils peuvent s'adresser en toute confiance et que nous nous chargions de rassembler les problèmes, nous nous chargions de voir ce qui est individuel, parce qu'il y a parfois des problèmes individuels, et quels sont les problèmes qui sont collectifs. Donc nous pouvons ensuite nous adresser à la banque pour trouver des solutions avec eux. Je suis convaincue qu'il n'y a jamais rien d'inéluctable. Ce qui est inéluctable, c'est ce qu'on accepte. Et je suis aussi convaincue, et les médecins du travail, les psychologues le disent aussi, que ce qui est le plus dangereux, c'est de se résigner et puis d'accepter une situation qui était en fait inacceptable.
Alors vous l'aurez compris, la profession de gestionnaire de fortune, elle devient plus complexe aujourd'hui. Il existe beaucoup de procédures, de réglementations juridiques. Au final, le gestionnaire est seul face à son client et il doit assumer ses décisions.
Tout autre chose maintenant avec la rencontre annuelle des Maisons Vertes de Suisse romande, demain à Renan dans le canton de Vaud. Les Maisons Vertes, ce sont ces lieux d'accueil enfants, parents, destinés à favoriser les échanges sociaux et à prévenir les troubles chez les tout-petits. Un concept né en France sous l'impulsion de Françoise Dolto, Laurence Jobin.
Oui, la première Maison Verte a ouvert ses portes en janvier 1979 à Paris. La célèbre pédiatre et psychanalyste française, guidée par l'idée qu'il est utile d'agir avant qu'il ne soit trop tard, l'a créé avec 5 confrères. Ni garderie, ni centre de consultation, c'est un lieu d'accueil et d'écoute pour les parents accompagnés de leurs jeunes enfants entre 0 et 4 ans. Un lieu ouvert, les visiteurs décident de leur venue et de leur départ, un lieu où on est anonyme, où mère et père, grands-parents ou nounous sont accueillis et peuvent échanger, un lieu où les enfants rencontrent d'autres enfants. Tout cela parce qu'une vie sociale est importante dès la naissance, parce que les parents sont parfois très isolés avec leurs enfants. Voilà ce qui a guidé Françoise Dolto. Le concept fonctionne et se développe. Il existe aujourd'hui 150 maisons vertes en France et SM à l'étranger, dont en Suisse. La Suisse romande en compte aujourd'hui 16, dont celle de Renan, qui s'appelle « Aux quatre coins ».
Et nous sommes en ligne avec France Frascarolo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, spécialiste des interactions parents-enfants et membre du comité de la Maison Verte de Renan. Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement, ces lieux de rencontre ?
Alors je crois, comme l'a dit votre journaliste, c'est vraiment un lieu de partage, de rencontre. Précisons que quand un adulte vient avec un jeune enfant dans une maison verte, il reste avec l'enfant. Donc c'est pas un lieu de garde, c'est un lieu où l'adulte, le parent, passe un moment avec son enfant, d'autres adultes et d'autres enfants.
Est-ce que vous constatez des attitudes ou des comportements parfois inhabituels ou surprenants ? On va parler d'abord peut-être des parents, des mamans notamment.
Alors, ce que j'aimerais dire à propos des mamans, c'est que on sait maintenant que beaucoup de mamans sont déprimées. Entre 10 et 20% des mamans sont déprimées. Et c'est une période où il est presque plus difficile encore d'être déprimé parce qu'on ne s'attend pas à l'être. Donc quand on l'est, généralement, on tend à se rajouter de la culpabilité, des critiques de soi-même, etc. Et moi, ça complique beaucoup la vie et la relation avec un jeune enfant. Et ça, on se dit que les maisons vertes sont un bon endroit où aller quand on se sent pas très fort, pas très en forme, parce que on sort de la solitude, on rencontre d'autres gens, on discute, on échange, on peut déjà aussi se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et puis qu'élever un enfant, c'est pas toujours facile.
Le thème de la rencontre des Maisons Vertes de Suisse romande, demain, c'est la multiculturalité. On sait que la ville de Renan compte une très forte proportion d'étrangers. C'est pas un hasard, je suppose, si cette thématique est abordée dans cette ville-là.
C'est effectivement par hasard. Beaucoup de nationalités se retrouvent aux quatre coins, beaucoup de langues sont parlées, et ça, c'est vraiment un plus. C'est une possibilité de rencontre, de découverte d'autres cultures. Les enfants peuvent apprendre aussi, les parents et les enfants apprennent la tolérance, l'ouverture, l'enrichissement et surtout l'intégration des uns et des autres.
Merci beaucoup en tout cas France Frascarolo d'être venue quelques minutes dans ce journal. Psychologue spécialiste des interactions parents-enfants et membre du comité de la Maison Verte de Renan. Vous répondiez à l'invitation de Laurence Jobin. Merci, bon après-midi à vous.
Merci à vous, au revoir.
Le 12-30, David Racana.
Et comme tous les vendredis, on retrouve la carte postale chinoise de notre correspondant Alain Arnaud. À Shanghai, la plus grosse exposition universelle de tous les temps ferme ses portes dimanche. Elle a attiré le chiffre record de 70 millions de visiteurs en l'espace de 6 mois. 2,7 millions de personnes ont visité le pavillon helvétique malgré les déboires de son télésiège. Le personnel suisse engagé pour les accueillir devait évidemment maîtriser la langue chinoise. Écoutez.
你好，你排了多长时间？
一个半小时了，一个半小时，这么长时间，40分钟，辛苦了。
Je suis guide au pavillon suisse.
Julia Brocco.
J'ai commencé à étudier le chinois il y a 5 ans à Genève. J'étais très motivée de travailler ici, surtout pour être en contact avec les Chinois et parler chinois, justement.
Je suis chef de service.
Marc Marles.
Ça veut dire que je suis en charge de tout ce qui est le restaurant. Je m'occupe des clients, qu'ils soient à l'aise, que le restaurant marche bien.
Anyhow. 我们瑞士人那个面包切一半好吗？里面来一点点黄油，还有一个熏肉，一个奶酪，一起吃好吗？
Je viens de leur expliquer que je leur recommande de couper le pain à moitié, de mettre un peu de beurre dedans et mettre après le fromage et la viande séchée dedans, puisque voilà, la viande séchée est assez salée pour eux et comme ça, avec le pain ensemble, ils aiment quand même bien. Les Chinois, ils n'ont pas l'habitude que les étrangers parlent chinois. Quand on vient dans une table avec des Chinois, ils arrivent et ils sont déjà un peu « Oh, qu'est-ce que je veux dire en anglais? Mon anglais, il n'est pas bien. » Et quand on répond en chinois, déjà on dit « Oh, comment ça va? Ni hao, huang guangling. » Ils sont très contents, ils sont très étonnés et surpris positivement, oui.
Ce qui était bien, c'était l'interaction avec les gens. Ce qui est moins bien, c'est la quantité effroyable de gens.
Evelyne Banyu.
Donc trop d'interactions presque, ce qui empêche un peu justement l'interaction.
Je parle le français, le suisse allemand, l'allemand, l'anglais, le chinois et l'indonésien.
Rolf Studer.
Il suffit de pas grand chose, il suffit de dire ni hao et puis c'est waouh, vous parlez chinois très bien. Ok, merci.
J'ai fait des études de chinois à Genève.
Antoine Gué.
Je suis venu travailler ici au pavillon suisse pour parler aussi avec les visiteurs et leur expliquer un peu. Ils nous posent très souvent des questions sur la Suisse, sur qu'est-ce qu'on fait ici, voilà ce qu'on a fait avant, ce genre de choses.
Je m'appelle Irène et en chinois mon nom c'est Irène, ce qui veut dire une personne autour de laquelle on se sent confortable. Tous les Chinois et Chinoises disent que je parle chinois très bien, c'est parce que les Chinois et Chinois sont très très gentils avec nous. Merci beaucoup pour votre hospitalité à l'expo.
C'était la carte postale de Chine de notre correspondant Alain Arnaud que l'on retrouve tous les vendredis dans le journal de la mi-journée. Les photos du personnel du pavillon suisse sont à découvrir sur notre site internet rsrinfo.ch. Le club rock lausannois Le Romandie vernit ce soir l'exposition de Steph Mel et Louz. L'une est photographe suisse, l'autre est l'un des dessinateurs les plus talentueux de France. Ensemble, ils croquent l'univers du rock, Michel Masseret.
Iggy Pop, Roxy Music, LCD Sound System ou Arcade Fire, il compte parmi les nombreux groupes et artistes que le duo franco-suisse a saisi le temps d'un concert. Résultat, après un petit livre, aujourd'hui une exposition ludique et passionnante présentant jusqu'au 4 décembre un panorama sélectif de la scène rock et électro actuelle. Au total, une trentaine de planches ou dessins, photos, mais aussi textes, dialogues, faisant revivre des concerts donnés principalement durant cette dernière année. Dessinateur pour Charlie Hebdo et pour le magazine Tsugi, Louz est un passionné de musique, un amour qu'il partage avec sa compagne, la photographe Steph Mel. Louz.
L'idée, c'est de décloisonner l'art de la photographie et l'art du dessin. Décloisonner, c'est aussi se confronter à celui des autres. Et c'est aussi tout bêtement, nous on a une énergie, une passion qui nous est commune, qui est la musique. Et peut-être que la photographie pour la photographie ça suffit pas, le dessin pour le dessin ça suffit pas, il faut pouvoir être au service de quelque chose. Et je pense que la musique est un art au service duquel on a vraiment envie d'être.
Il y a des artistes que vous rêvez encore de croquer ?
Oui, moi je rêverais, je pense que Stéphanie aussi rêverait de photographier David Bowie. Je crois que malheureusement ça va être difficile, je crois qu'il est en très mauvaise santé. Mais on peut toujours rêver, et peut-être qu'un jour on arrivera avec les technologies modernes à photographier un David Bowie qui ne chante pas ou qui ne se produira pas sur scène, qui sait.
magazine signé Michel Masseret. Une formation pilote de 4 jours pour détecter et prendre en charge les victimes de la traite d'êtres humains s'achève aujourd'hui à Lausanne. Et vous êtes l'un des responsables de cette formation. Laurent Knobel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable suppléant du SCOT, le bureau de direction du service de coordination contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants qui dépend du FEDPOL, l'Office fédéral de la police. D'abord, pourquoi la mise en place de cette formation ?
Alors les victimes de la traite d'êtres humains ont véritablement besoin d'une aide spécialisée. Ça a été clairement démontré tant en Suisse qu'à l'étranger. Et elles ont donc des besoins spécifiques en termes d'accompagnement, de protection. En Suisse alémanique, il existe un centre d'assistance spécialisé pour les femmes victimes de traite d'êtres humains. L'un des buts de cette formation, c'est le transfert de ce know-how en Suisse romande, dans le but aussi d'améliorer la détection des situations. Et puis un dernier élément, c'est que la Suisse est engagée sur le plan international. Elle a signé la Convention du Conseil de l'Europe contre la traite d'êtres humains. Elle s'apprête à le ratifier et cela a des implications sur les services d'aide qui doivent être donnés aux victimes.
On va peut-être rappeler comme ça ce qu'on entend par traite d'êtres humains. C'est quoi une exploitation par le travail, une exploitation d'ordre sexuel? C'est quoi exactement?
Alors ça peut paraître un peu compliqué, je dirais que le trait marquant de la traite d'êtres humains, c'est la réduction d'une personne à l'état de marchandise que l'on peut acheter, vendre, louer, échanger dans un but d'exploitation. Et là, il y a 3 formes qui sont reconnues, l'exploitation sexuelle, l'exploitation de la force de travail de l'individu ou encore l'exploitation en vue du prélèvement d'un organe.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes victimes de traite d'êtres humains en Suisse ?
Pas vraiment, parce que c'est un phénomène qui est extrêmement difficile à détecter et donc les chiffres qui ressortent des statistiques ne reflètent pas la réalité du phénomène.
Alors cette formation pilote organisée à Lausanne qui s'achève aujourd'hui, elle s'adressait à qui précisément ?
Alors elle s'adressait prioritairement au service de consultation pour l'aide aux victimes, l'AVI de Suisse romande, mais également on l'a élargi aux autres services sociaux ou services médicaux qui pourraient peut-être entrer en contact avec une victime de traite d'êtres humains afin de leur donner des outils de base pour détecter des situations potentielles de traite.
Justement, comment est-ce qu'on détecte ces situations ?
Alors, on le sait de manière certaine, quasiment jamais à l'issue d'un premier entretien. La détection, l'identification d'une situation de traite, c'est un processus qui passe d'abord par l'établissement d'un rapport de confiance avec la victime. Et ça demande naturellement beaucoup d'expérience et nécessairement aussi d'excellentes connaissances sur ce qu'est véritablement la traite d'êtres humains. Toutefois, il y a des moyens d'aide. Le SCOT a élaboré une checklist qui liste un certain nombre d'indicateurs afin de permettre justement aux services non spécialisés d'identifier des situations potentielles.
La formation donc pilote organisée à Lausanne s'achève aujourd'hui. Elle a duré 4 jours en tout. Quel bilan ?
Un excellent intérêt, une bonne réponse de la part du public cible. Enfin, une même compréhension de ce qu'est la traite d'êtres humains, et c'est un point de départ absolument nécessaire. En termes d'organisation, également un bilan très positif. Le centre de formation continue de la HETS Genève a accepté de soutenir cette formation pilote et on est très content de la collaboration.
Donc ça, c'était une formation pilote. Il y en aura d'autres ?
Fort probablement, nous organisons régulièrement des formations pour la police. Et puis celle-ci, c'était une première pour l'aide aux victimes, mais notre but, c'est de renouveler l'expérience.
Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions, Laurent Knobel. Je rappelle que vous êtes responsable suppléant du SCOT, le bureau de direction du service de coordination contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants. Merci, bon après-midi à vous. Un mot de la bourse pour vous dire qu'à la mi-journée, l'indice SMI est en baisse de 0,4% à 6459 points et il est temps de prendre des nouvelles du ciel. Avec Sébastien Dupéré.
Le ciel est bien dégagé sur l'ensemble de la Suisse et cet après-midi, seuls quelques voiles nuageux viendront légèrement limiter l'ensoleillement. Les températures pourront atteindre entre 13 et 17 degrés sur le plateau et même 19 en vallée centrale avec l'arrivée du Föhn dans les Alpes en fin d'après-midi. Demain, on observera 3 régions distinctes. Sur l'ouest du pays, le ciel se fera rapidement nuageux et quelques précipitations pourront tomber en cours d'après-midi. Au sud des Alpes valaisannes, le temps sera couvert et pluvieux alors que dans les autres régions, le temps restera assez ensoleillé et majoritairement sec. Le mercure indiquera entre 12 et 14 degrés sur le plateau et jusqu'à 17 dans les vallées alpines où le Fön pourra atteindre les 90 km/h par rafale. Dimanche, nous retrouverons nos trois régions distinctes. Les précipitations seront surtout abondantes au sud des Alpes valaisannes. Sur l'ouest, le risque d'averse se maintiendra, alors que dans les autres régions, le temps sera très nuageux, mais généralement sec. Le Fön devrait tomber en fin de journée.
La météo avec Vaudoise Assurance, votre partenaire pour les assurances auto, vaudoise.ch.
Des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Un camion remorque a endommagé la signalisation sur l'autoroute Lausanne-Yverdon et la circulation s'écoule difficilement à la hauteur de la jonction de la Sarra en direction du Verdon. En revanche, on ne signale plus de ralentissement sur l'autoroute Lausanne-Vevey entre Chèbre et l'échangeur de l'Aver en direction de Vevey et à Aigle. La route industrielle est à présent réouverte à la circulation. Un mot encore pour vous dire que Natacha Van Kutsem recevra lundi le pédopsychiatre Didier Lauroux, auteur du livre « Adolescence et prise de risque » paru chez Albin Michel. Et vous pouvez réécouter ce journal de midi et demi en tout temps sur notre site internet rsrinfo.ch. Il est 13h.